Tamani, voici nos informations en français.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 7 janvier 2020, les titres. Deux attaques simultanées au centre du Mali ont fait 10 morts ce lundi. Ces attaques interviennent un an après celle qui a fait plus de 37 morts en Colongou, dans la région de Mopti. Le procès d'Amadou Ayassanogo, l'ex-chef de la junte militaire et co-accusé, est à nouveau programmé. Les audiences doivent s'ouvrir le 13 janvier prochain, selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas le lieu. Journée mondiale des orphelins de guerre au Mali. Beaucoup de ces enfants sont pris en charge par les autorités, notamment dans le domaine de l'éducation et la santé. Toutefois, certains enfants dont les parents n'ont pas servi dans l'administration ne bénéficient pas de cette prise en charge. Fatmata Togola à la présentation. Recrudescence de l'insécurité au centre du pays. Deux attaques simultanées ont touché le lundi 6 janvier 2020 une patrouille des forces armées maliennes à Niono et Yoro dans le cercle de Koro. Selon des sources militaires, il y a eu 10 morts, dont 5 civils. Ces attaques interviennent un an après celle qui a fait plus de 37 morts à Kolongon, dans la région de Mopti. Les détails avec Intala Akbilal.
5 morts, 5 blessés et 4 véhicules détruits. C'est le bilan d'une attaque perpétrée ce lundi contre l'armée malienne sur l'axe Niono Alatona. Selon des sources locales, le convoi de l'armée aurait sauté sur un engin explosif improvisé. L'explosion a été suivie de tirs d'armes automatiques, ajoutent les mêmes sources. Cette embuscade a été suivie d'une autre perpétrée par des hommes armés non identifiés dans le village de Pongono, dans la commune de Koro. Le bilan est d'un mort et un blessé. Selon des sources locales, les échanges de tirs nourris entre les groupes d'autodéfense du village et les assaillants ont terrifié les habitants. Les forces armées maliennes aussi informés ont engagé une poursuite pour retrouver les bandits. L'alerte est également au maximum dans la commune de Yoro, cercle de Koro. Dans cette commune, les attaques se multiplient et les habitants sont inquiets. D'autres se sont déplacés vers la frontière burkinabé. Selon des sources sur place, l'explosion d'une mine au passage d'une charrette transportant des forains a fait ce vendredi dans la même commune au moins 4 morts, dont 2 femmes et 2 enfants. Selon des témoignages, les routes de cette commune seraient piégées par de nombreuses mines. À Kolongo, c'est plutôt une relative accalmie un an après le massacre de 37 civils. Toutefois, les déplacés ne sont toujours pas retournés, affirment les autorités communales. Mais les rescapés se disent sécurisés actuellement par les forces armées maliennes.
La ville de Mopti compte actuellement plus de 17 000 déplacés et plus de 500 autres sont venus de Pignari, Benya, dans le cercle de Badjagara à Sévaré entre ce dimanche et mardi. Le service local du développement social affirme qu'ils ont été accueillis et pris en charge par les autorités régionales. Selon Bakari Bengali, directeur régional du développement social de Mopti, ces déplacés ont aussi besoin d'assistance en non-vivre, notamment des kits, de ménage et autres. Ils ont été par moment de Saint-Debout.
Aujourd'hui, au niveau de la région, les populations déplacées, on les estime à plus de 70 000. Et au niveau de la ville de Mopti et environ, on a plus de 17 000 personnes qui se sont déplacées. Dans la journée de dimanche, nous avons accueilli un grand nombre de déplacés qui sont arrivés du village de Tou, dans la commune de Pignaribana. Ils étaient au niveau de l'école de Barbé. Dès qu'on a été informé, donc on a arrêté les voir et on les a déplacés au niveau d'un autre endroit. Hier, on avait arrêté 99 ménages de 416 personnes. Mais j'avoue que l'arrivée continue. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a encore d'autres personnes qui sont arrivées. Donc, on est aujourd'hui à 105 ménages enregistrés. Et dès leur arrivée, on a informé le gouverneur. Mais par rapport aux vivres, quand même, on peut dire maintenant que ça va parce que nous avons donné quand même 5 tonnes de riz et 500 kg de mil. Ils ont aussi des besoins à non-vivres, notamment les moustiquaires. Mais nous sommes en train de gérer cet aspect.
Recevez nos informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Le procès Amadou Ayassanogo et co-accusé est à nouveau programmé. Les audiences doivent s'ouvrir le 13 janvier prochain, selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas le lieu. L'ex-chef de la junte et ses co-prévenus sont accusés dans la disparition de 21 militaires Béret Rouge. Les explications avec Mariam Meiga.
Amadou Ayassanogo et ses co-accusés comparaîtront de nouveau devant les juges le lundi prochain. Cette reprise intervient 3 ans après le renvoi du procès. En son printemps, les juges avaient ordonné à la demande des avocats de la défense une nouvelle expertise médicale des corps des 21 béret rouges, car la première n'ayant pas été conduite conformément à la loi malienne. Parmi les co-prévenus de Amadou Aya Sanogo, deux ne sont plus en détention. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense, le général Ibrahim Dahirou Dembélé, dont le contrôle judiciaire a été levé, et du général Yamoussa Camara, qui bénéficie d'une liberté provisoire pour raisons de santé. Ils sont tous accusés d'enlèvement et d'assassinat, complicité d'enlèvement et d'assassinat de 21 béret rouges dont le corps ont été retrouvés dans un charnier à Diago, dans le cercle de Kati. A noter que depuis le renvoi du procès le 8 décembre 2016, ce 13 janvier est la deuxième date annoncée par le gouvernement pour la reprise des audiences.
Et en ce qui concerne le procès de Alassane Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ancien membre d'ACMI à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013, s'ouvrira le 14 septembre prochain à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a annoncé hier la chambre de première instance X de la Cour. Le présumé djihadiste malien est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur les populations civiles de Tombouctou pendant l'occupation de cette ville par les groupes djihadistes. Sur un tout autre plan, journée mondiale des orphelins de guerre. De nombreux enfants ont perdu leurs parents ces dernières années dans la crise multidimensionnelle que le pays vit. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont pris en charge par les autorités, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Toutefois, certains enfants dont les parents n'ont pas servi dans l'administration ne bénéficient pas de cette prise en charge. C'est dans ce contexte de deux poids deux mesures que la journée internationale des enfants orphelins de guerre a été célébré hier au Mali. Moussa Guindou, consultant en protection des droits de l'enfant au Mali, au micro de Omar Ouégalo.
Ils sont nombreux, ces enfants-là, mais ils sont pris en compte dans le cadre de la protection de l'État. Comme les situations ne sont pas fiables avec les ONG qui sont avec nous, effectivement, il y en a plein que le Mali a pris des dispositions par rapport à ça. Et cette loi prend en charge les enfants orphelins, les enfants qui ont des parents qui sont tombés sur le champ de bataille. Un centre qui a été créé récemment, un office national des pipis de la République du Mali. Et dans cette loi aussi, qui est pipi, qui n'est pas pipi est défini, et comment les prendre en charge, et les dossiers, les critères qui prouvent que c'est des enfants, parce qu'au Mali, la loi dit qu'on est enfant de 0 à 18 ans.
Il y a des civils qui ont perdu la vie, surtout au nord et au centre, avec les massacres. Est-ce que ces enfants-là sont pris en charge?
C'est là le problème. On nous parle naturellement des militaires, des civils, sauf après identification. Je pense que c'est peut-être la faiblesse de la loi.
Fin de stage pour 10 étudiants à Studio Tamani. Ces stagiaires viennent de boucler 3 mois de formation et de renforcement des compétences en journalisme. Les apprenants sont désormais outillés en techniques de reportage, collecte et traitement d'informations. Ils se disent prêts et engagés à soutenir la formation reçue à travers le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Les détails avec Fatih Attara.
Parmi ces stagiaires figurent des étudiants de la première promotion de l'École supérieure des journalisme et des sciences de la communication. Selon la rédaction en chef de Studio Tamani, il s'agit à travers ces stages offerts aux étudiants de renforcer leurs compétences sur les techniques de reportage et traitement d'informations. Mohamedou Touré, rédacteur en chef adjoint du Studio Tamani, chargé du suivi et de l'évaluation des stagiaires.
L'objectif principal, c'est uniquement de renforcer le système médiatique malien. En termes d'information, la seule chose sur laquelle on insiste beaucoup plus, ça c'est le fait de vérifier bien une information et également le fait d'être indépendant dans le traitement de l'information.
Pour ces étudiants, les objectifs de la formation pratique ont été atteints. Le passage à Studio Tamani a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans le journalisme. Issa Oumar Togola, étudiant à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication.
On a fait pas mal de productions et on produit également des nouvelles, des brèves, qui est d'ailleurs l'un des genres les plus difficiles. Concernant la rédaction d'un papier, ce que moi j'ai appris, c'est la concision. Et très souvent, lorsqu'on faisait des papiers, nos professeurs nous disaient à chaque fois, il faut aller à l'essentiel. Et ça, on a su le faire ici à Studio Tamani.
Ces étudiants promettent aussi de laisser derrière eux toutes les pratiques qui n'honorent pas les métiers du journalisme. Selon eux, cette formation va opérer un grand changement dans leur manière de traiter l'information. Kouandiara, étudiant.
Ma conception de l'information n'était pas de donner l'information concise avec les 5W. Avant, on pouvait prendre position sans le savoir, effectivement. Mais avec cette formation que nous venons de recevoir, l'information qu'on va donner maintenant, même en dehors sort d'ici, je serai encore plus pointu et plus juste.
Sidio Tamani se veut aussi une école de formation. Il entend rester dans cette dynamique de former. L'objectif est de contribuer à la culture de l'excellence dans le monde des médias.
Sidio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, faisons un tour dans la région de Ségou. Les ouvriers de la compagnie malienne des textiles Comatex SA ont décrété depuis hier une grève de 5 jours. Ils réclament l'augmentation de 20% sur les salaires, entre autres. Selon les ouvriers, si les doléances ne sont pas satisfaites, d'autres mouvements seront programmés dans les jours à venir. Restez avec nous pour le grand dialogue avec Mohamedou Touré. Bonsoir. Alors, de quoi allez-vous parler ce soir?
Oui, bonsoir Fatmata Togola. Le thème du grand dialogue de ce soir, c'est corruption et rapport de l'OCLE. Qu'est-ce qui va se passer au Mali? Nos invités sont Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali, Modibo Mahoumakalou, économiste, et Khalid Dambélé, également économiste et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES.
Merci Mohamedou et bon débat. Et c'est tout pour cette édition. Dans un instant, le magazine.